Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus pour Fidèle au poste, votre émission de début d'après-midi sur Radio Judaïka. Cette semaine encore, bande dessinée, cinéma, musique un peu bizarre sont au programme de votre rendez-vous quotidien. Dans quelques minutes, mon invité sera Dominique Missika. Elle est co-auteure d'une bande dessinée, Les Enfants de Buchenwald.
When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, I know you. I walked with you once upon a dream. I know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleam. Yes, I know it's true that visions are seldom all they seem. But if I know you, I know what you'll do. You love me at once, the way you did once upon a dream.
I'm the guy they call Little Mickey Mouse. Got a sweetie down in the chicken house. Neither fat nor skinny, she's a horsey sweetie. It's my little Minnie Mouse. When it's feeding time for the animals, and they howl and growl like the cannibals, I just turn my heel to the hen house still, and you hear me sing this song. Oh, the old tomcat with his meow, meow. Old hound dog with his wow, wow, wow. The crows and the mules, gosh, what a racket like an over. So I have listened to the cuckoo cookies, and I've heard the rooster cocks do the doo-doo. With the cows and the chickens, they all sound like the diggers when I hear my little meanies. Yeah,
I'm in the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, and you prick a ropaw, well, next time, beware. Don't pick a prickly pear by the bow. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big pawpaw. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do.
Bande dessinée de 144 pages signée Dominique Missika au scénario et Anaïs de Pommier au dessin, Les Enfants de Buchenwald est disponible aux éditions Steinkiss. L'action démarre au printemps 1945 et suit le destin de quatre adolescents, Zell, Fischler, Chaim et Aaron, tous rescapés du camp de Buchenwald, pris en charge par l'OSE. Chacun porte les traces de l'enfer vécu, chacun cherche un abri pour panser ses blessures. Dominique Missika.
Écrire le scénario de cette bande dessinée Les Enfants de Buchenwald, c'est une première parce que, en effet, je n'ai jamais pensé écrire à destination des jeunes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet exercice de transmettre ce que je sais de cet épisode des Enfants de Buchenwald, du sauvetage des Enfants de Buchenwald, via la bande dessinée, qui en effet est destiné avant tout, je l'espère, aux lycéens, aux collégiens, aux étudiants, et puis en effet à tous ceux qui s'intéressent à cette histoire.
Le trait d'Anaïs de Pommier reste net et précis. Les cases sont claires, structurées et épurées. Une palette de couleurs qui se limite à quelques teintes, gris, rouge sombre, beige couleur terre.
Travailler de très près avec Anaïs de Pommier a été une très belle aventure. Parce qu'en effet, elle me posait des questions de détails, de costumes, de lieux, de descriptions, des vêtements, choses auxquelles je n'aurais pas pensé si j'avais écrit pour un public classique. Et nous, toutes les deux, on s'est plongées dans les archives, surtout les archives photos, les témoignages de ceux qui avaient connu ces enfants de Buchenwald, pour être au plus près de ce qu'ils avaient vécu et ne pas se tromper dans le vocabulaire, dans les noms des lieux, dans tout ce qui pouvait tromper. Et donc, on a été extrêmement loin dans nos recherches.
Comme toujours, l'historienne et auteure Dominique Missica appuie son récit sur une documentation solide, témoignages, lettres, journaux d'enfants. Les quatre personnages de fiction de l'album sont largement inspirés à la fois de la vie de l'écrivain Elie Wiesel, lui-même pris en charge par Lozé à 15 ans, et des centaines d'autres témoignages.
J'ai choisi de ne pas prendre des personnages réels, d'inventer ces quatre personnages qui sont en fait une sorte de synthèse de tous ceux qui ont écrit leurs témoignages, car je me sentais mal à l'aise de prendre la parole à la place de l'un d'entre eux.
Une collecte initiée dès 2005 par Dominique Missica, en suivant la volonté de Simone Veil au nom de la Fondation de la mémoire de la Shoah.
Si ce sont bien les Américains qui arrivent les premiers au camp de Buchenwald, le camp s'est quasiment déjà libéré. Il y a une résistance extrêmement bien organisée à l'intérieur du camp. Il faut dire qu'à l'intérieur de Buchenwald, ce sont essentiellement des résistants, des déportés politiques qui sont internés depuis des années. Il y a une résistance communiste, une résistance gaulliste aussi, bien sûr. Mais ce sont des hommes qui se sont organisés et qui avaient préparé l'ouverture de la libération du camp. Et c'est parce qu'il y a une résistance organisée à l'intérieur du camp que ces enfants ont été sauvés de la mort, parce qu'ils ont été protégés, réunis dans deux baraques, et très astucieusement, les responsables ont fait croire que ces gamins avaient des maladies infectieuses, et les Allemands, ayant une peur panique de tout ce qui pouvait être contamination, ne se pointaient guère pour surveiller ces blocs, et c'est ainsi que les enfants ont pu survivre quelques mois encore en attendant l'arrivée des Américains.
L'album Les Enfants de Buchenwald met aussi en lumière le vaste travail de Lozé après la libération. Rapatriement, soins médicaux, soutien psychologique, retrouvailles familiales et de nouvelles pistes pour un avenir à reconstruire.
Sans le dévouement, sans la rapidité avec laquelle Lozé, cette association d'œuvres de secours aux enfants juifs, qui est une organisation française, enfin dont une branche est française, mais qui est une organisation qui a œuvré dans l'ensemble des pays, sans Lozé, jamais ces enfants auraient pu être sauvés. Il faut préciser que ce ne sont pas des enfants en réalité, ce sont des adolescents. Une poignée sont encore des enfants, c'est-à-dire qu'il y a ils ont 10, 12, 13 ans, mais la plupart ont plutôt entre 15 et 17 ans. S'ils ont survécu et qu'ils n'ont pas été envoyés directement à la chambre à gaz quand ils ont été déportés à Auschwitz, c'est parce qu'ils représentent de la main-d'œuvre forcée et que les Allemands, toujours à court de main-d'œuvre, a préféré les engager sans trop regarder l'âge qu'ils avaient. Souvent, ils ont menti pour pouvoir suivre leur père ou leur grand frère. Et c'est vrai que sans le dévouement, sans le courage, sans l'audace de Lozé, ces enfants auraient été abandonnés, livrés à eux-mêmes. Ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus personne au monde. Et ils savent qu'ils sont orphelins. Ils ne vont rentrer ni en Pologne, ni en Roumanie, ni en Hongrie. Et ils savent leur village ou leur ville complètement détruite. Ils ont vu leurs parents assassinés. Et en fait, ils sont vraiment seuls au monde. Les éducateurs et les éducatrices tombent sur non pas des enfants comme on leur avait dit, mais sur des adolescents, des gaillards, qui ont été habitués à recevoir des coups, à en donner, qui n'ont absolument aucune confiance dans les adultes, qui les ont toujours trahis, qui les ont obligés à mentir, à mendier, à faire le pire pour survivre. Par conséquent, et puis il y a l'obstacle de la langue, qui n'est pas un des moindres obstacles, c'est que la plupart parlent yiddish, et les éducateurs, qui sont de jeunes gens français, ne parlent pas le yiddish. Une partie de ces gamins sont extrêmement religieux et pieux, alors que les éducateurs et les éducatrices sont plutôt des laïcs, donc il y a aussi une incompréhension. Tout est douloureux, tout est compliqué, puisque par exemple, c'est une scène que je trouve extrêmement touchante, on leur sert du camembert, on est en Normandie, puisqu'ils sont accueillis en Normandie, dans l'heure, on leur sert du camembert, ce qui est en 45 un exploit, parce que le rationnement est toujours extrêmement sévère, et ils sentent ce fromage, ils sont persuadés qu'ils vont être empoisonnés. Ils ne peuvent pas croire qu'on leur veut du bien, puisque jusqu'à présent, on ne leur a voulu que du mal. Donc, les moniteurs et les monitrices vont être obligés de s'adapter, de trouver des moyens d'entrer en contact, de les rassurer, de leur redonner goût à la vie. Certains sont déprimés, découragés, abandonnés, donc il leur faut beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire, d'empathie pour réussir à rendre à ces gamins un semblant de vie et de goût à la vie surtout.
Un one-shot très dense qui commence en doute et fort en émotions et en redécouvertes historiques. Les enfants de Buchenwald de Dominique Missika et Anaïs Depommier est disponible aux éditions Stenkis.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Allez, on monte en température avec Fever, juste avant de nous intéresser à l'affaire Mortana en ce mois d'élection d'un nouveau pape.
Jamais je ne pourrais te dire tous les faits que tu me fais. Dès que tu me donnes tes lèvres, mon sang me mord et tout se met à tourner. 39 de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Il peut tomber des tonnes de neige, pas besoin de feu de bois. Dès que tu viens dans ma chambre, presque aussitôt je sens changer le climat. 39 fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39, et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Lance l'eau connue Guenièvre, qui reçut un drôle de choc. Quand il lui dit d'un ton mièvre, dans le jargon que l'on causait à l'époque, 39 de fièvre. Je le jure, Eros m'a percé de son dard. Et sous mon armure, je suis en train de cuire comme un homard. Napoléon voit Joséphine, il en reste tout gâteux. Cherchant son thermomètre, il chante en Corse, j'aime tes grands cieux. 39 de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39, ouh, et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Et la morale c'est que les filles, centigrades ouvrées au mur, c'est fait pour donner la fièvre, et peu importe l'instrument de mesure. 39 de fièvre, ça pétille brille et ça continue à monter. 40, ça grésille, ah, quelle jolie façon de brûler. Quelle jolie façon de brûler. Quelle jolie façon de brûler.
Alors que sortait il y a quelque temps un film sur le sujet, revenons aujourd'hui sur l'affaire Mortara, l'enlèvement et la conversion forcée d'un enfant juif par le pape au milieu du 19e siècle à Bologne. Une affaire qui a provoqué un scandale international et a eu des conséquences majeures pour l'Italie. Imaginez, le 23 juin 1858, à 22h, les soldats du pape font irruption chez la famille juive Mortara dans le quartier juif de Bologne. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé, et la loi pontificale est indiscutable, il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d'Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenu par l'opinion publique de l'Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique. Mais l'Église et le pape refusent de rendre l'enfant pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant. Pour comprendre le contexte de cette histoire, il faut se rappeler que l'Italie est un pays très catholique à cette époque et qu'un certain nombre de villes appartiennent à la papauté, dont la ville de Bologne. Les Juifs y subissent de nombreuses restrictions, ils n'ont pas de synagogue ni de rabbins officiels, ils ne sont pas autorisés à aller à l'université, ils subissent des vexations et des humiliations, notamment lors du carnaval du Mardi Gras, et il leur est interdit d'avoir des employés chrétiens. Or, la famille Mortara avait fait fi de cette loi. Edgardo aurait été baptisé secrètement par leur ancien employé catholique lors d'une maladie. La jeune servante ne révèle ce baptême que 6 ans plus tard. Selon la loi des États pontificaux, l'enfant ne peut rester dans une famille juive. L'enlèvement a été orchestré par l'inquisiteur de Bologne, Pier Gaetano Feletti, père franciscain et neveu du pape, sur ordre de Rome.
Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato e ho l'ordine di prendere.
Cosa?
Un battesimo non si può annullare.
Suo figlio non è più ebreo, suo figlio è cristiano.
Lo porterete via.
Sì.
Edgardo!
Le petit Edgardo Mortara est retiré de ses parents et conduit immédiatement à Rome pour être élevé dans un institut dédié aux juifs nouvellement convertis au catholicisme et entretenu par le produit des taxes imposées aux synagogues de l'État pontifical. Au cours du voyage qui le mène à Rome, il est renommé Pio et on échange la petite mezouza qu'il porte autour du cou par un crucifix. Suite à cet enlèvement, la famille Mortara et la communauté juive d'Italie se mobilisent. Des protestations d'organisations juives, de personnalités politiques et intellectuelles britanniques, américaines, allemandes et françaises arrivent de toutes parts. À Paris, cet épisode, ainsi que d'autres actes antisémites, sont le point de départ de la naissance de l'Alliance israélite universelle. L'affaire Mortara étant loin d'être un cas isolé, l'enlèvement de jeunes juifs et leur conversion forcée se produisit maintes fois dans cette Italie très catholique. L'empereur des Français, Napoléon III, proteste lui aussi, avec un poids particulier, puisque seules ses garnisons permettaient au pape de maintenir un statu quo en Italie. Cette affaire déstabilisera la politique du pays et aboutira à l'unification de l'Italie. Jusqu'à la fin de leur vie, les parents Mortara déploieront tous les efforts possibles pour tenter de récupérer leur enfant. Mais le pape Pie IX ne changera pas sa politique et se montre inflexible. Edgardo reste en contact régulier avec les membres de sa famille et son portrait trône sur les murs de la maison familiale. Edgardo Mortara finira sa vie au sein de l'église et meurt en mars 1940 à l'âge de 88 ans. Durant la Shoah, une partie de sa famille est assassinée et jusqu'à nos jours, ses descendants restent marqués par cette affaire.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Dans le genre président de la République française qui fondait l'heure avec Israël, vous vous souvenez peut-être de cette visite de Jacques Chirac à Jérusalem lors d'un voyage officiel en octobre 1996. Lors d'une visite de la vieille ville, alors qu'il était protégé par les forces de sécurité israéliennes, il s'en prend à l'un des gardes du corps israélien avec cette phrase dans un anglais approximatif.
Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je pense qu'on va rassurer. What do you want?
Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let it, let them go. And let them do. No, that's no, no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation.
It's not a provocation.
Please, you stop now.
Qu'est-ce que vous voulez? Que je retourne dans mon avion pour rentrer en France? Eh bien, cette fameuse phrase « What do you want ?» Deux musiciens, Guillaume Farley et Roche Arvette, nous en offrent une chanson rafraîchissante et pleine d'humour. Un duo énergique qui mélange jazz, pop, swing, avec une certaine élégance décontractée et qui joue habilement, vous allez le voir, avec les mots et les sons.
« What do you want ? You want me to go back to my plane and come back to France ? Is that what you want ?» No, no, there's no danger, no problem. Let them go, let them do what they want. Please, you stop now. Bonjour. What do you want? You want me to go back to my plane and come back to France? Is that what you want? This is not a method. No. This is just provocation.
Yeah.
Now, you stop. Bonjour. What do you want? You want me to go back to my plane and come back to France? Is that what you want? This is not a method, no. This is just provocation. Let them go, let them do. Now you stop. Bonjour. What do you want? You want me to go back to my plane and come back to France? Is that what you want? No, this is not a method, no. This is just provocation.
Yeah, provocation.
Let them go. Now you stop. Bonjour. What do you want? Me to go back to my plane and come back to France? Is that what you want?
Is that what you want?
No, this is not a method. No, no, no. This is just a provocation.
Yeah, provocation.
You stop. Bonjour.
What do you want?
Me to go back to my plane and come back to France? Is that what you want?
Pas de piano.
This is not the method. Pas de piano, ouais, c'est ça.
This is just provocation.
Yeah, provocation.
Now you stop.
Bonjour.
What do you want? You want me to go back to my plane and come back to France? Is that what you want?
Not what you want.
This is not the method.
No.
This is just provocation.
Yeah, provocation.
Pas de piano, ouais.
Now you stop.
Provocation, yeah, provocation.
do you want? You want me to go back to my plane and come back to France? Is that what you want?
Is that what you want?
This is not a method.
This is just provocation, and you know it.
Now you stop. Bonjour. What do you want? You want me to go back to my plane and come back to France? Is that what you want?
Is that what you want?
This is not a method. No. This is just provocation. Let them go. Let them do. Now you stop.
What do you want? You want me to go back to my plane and come back to France? Is that what you want? This is not a method. This is just provocation.
Now you stop. Bonjour.
What do you want? You want me to go back to my plane and come back to France? Is that what you want?
This is not a method.
This is just provocation.
Now you stop. Bonsoir.
Should we get gum 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 good?
Ainsi se termine Fidèle au Poste. Vous retrouvez votre émission en podcast sur le site de Radio Judaïca. Demain, direction la Corse et les liens inattendus avec l'histoire juive. Alors, soyez au rendez-vous et bon après-midi à l'écoute de nos programmes.